أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة أيها الأخوات أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Chers frères, chers sœurs, chers amis, la sourate que nous allons étudier est une sourate particulièrement édifiante. Beaucoup d'enseignements y sont préservés, révélés, et qui nous oriente et qui oriente tout à la fois nos cœurs et nos intelligences, vous allez vous en rendre compte. Et je vous demande pour ce faire de suivre les différentes étapes que nous allons essayer de mettre en évidence. Première des choses est l'intitulé que j'ai donné à ce passage, c'est l'épreuve de l'amour. L'épreuve de l'amour parce que, contrairement à ce que pensent les êtres humains, immédiatement et spontanément. L'amour est un formidable sentiment, un très beau sentiment. Et ça, tout le monde le pense immédiatement et nous avons raison de le penser. La question qui se pose à tous ceux qui portent la foi en Dieu, comme tous ceux qui ont une conscience, c'est de se rendre compte que du plus beau sentiment, les résultats les plus négatifs peuvent naître. Il ne suffit pas d'aimer pour faire le bien, mais il faut maîtriser son amour pour devenir un homme de bien. Et pour nous, c'est un enseignement fondamental, parce que parfois, on part du meilleur des sentiments et l'on finit vers la pire des conclusions. Et dans la société dans laquelle vous êtes, on laisse entendre que parce que la source est bonne, forcément le résultat est bon. Pas tout le monde, mais on entend souvent ceci, c'est naturel, donc c'est bien. Non, tout ce qui est naturel n'est pas bien, comme il est naturel que je me mette en colère, mais il n'est pas bien que je me mette en colère. Comme il est naturel que je puisse parfois aimer ce que j'ai, mais il n'est pas bien que j'aime trop ce que je possède. En d'autres termes, tout le naturel n'est pas forcément bon. Et l'épreuve de l'amour, c'est de savoir distinguer avec ses sentiments ce qui me mène à la lumière et ce qui me mène dans l'ombre. Dans les sentiments, c'est beaucoup plus difficile que dans l'intelligence. Parce que si j'ai une équation de mathématiques, l'erreur est facilement décelable, le résultat est incorrect. Mais une erreur affective est beaucoup plus difficile parce que le naturel est bon, mais ma gestion peut être mauvaise. Donc nous allons étudier l'épreuve de l'amour. Et il y a quelque chose d'assez étonnant dans ce passage du Coran de Youssouf, qui est un prophète et un envoyé, fils de prophète, alayhi salam, et Yaqub, fils de Jacob, qui est également un prophète. Il y a quelque chose de très très étonnant. Si vous lisez, comme nous avons pu le lire parfois avec la lecture d'édification spirituelle, parfois des choses échappent à notre intelligence qui sont pourtant dans le texte. La force du Coran, c'est de dire plus que ce que tu comprends. Et la force du Coran, c'est de te rappeler qu'il faut revenir à sa lecture pour comprendre davantage ce que parfois tu as négligé. Et quand vous méditez ces passages, vous vous rendez compte d'une chose extrêmement forte. C'est que dans ce passage, toutes les dimensions de l'amour sont abordées. Pour ce qui concerne les relations humaines. La relation des parents à l'enfant est ici représentée par Yaqub alayhi salam, Jacob avec son fils, comme le fils Youssouf alayhi salam avec son père. C'est donc l'amour filial des parents aux enfants. Ce n'est pas tout. Dans la même histoire est raconté l'amour déchirant entre les frères et le frère. C'est l'amour de la fraternité à l'intérieur d'une famille. Mais ce n'est pas tout. Dans la même histoire est racontée la troisième dimension de l'amour. L'amour qui peut mener à vivre et mener à se réaliser la relation entre un homme et une femme, et en particulier avec la femme de l'intendant, comme nous allons le voir. Extrêmement étonnant, en une histoire, les parents et l'enfant, l'enfant et ses frères, l'homme et la femme. Les trois dimensions fondamentales de tout ce qui porte notre affection. Et dans les trois cas, l'épreuve, l'amour est une épreuve, et l'épreuve de l'amour est à vivre. Nous allons essayer ensemble de nous rendre compte de cet enseignement très profond. Alors nous allons prendre dans la première partie maintenant les versets 7 à 14 que, comme à l'habitude, je vous lis. Et puis ensuite, on va en tirer les enseignements. « Barda'ouzou billahi min ash-shaytan ar-rajim. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. Idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu 'usbatun inna abana la fi dalalin mubin. Iqtulu Yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Il y a vraiment en Joseph, donc en l'histoire de Joseph et ses frères, des signes pour ceux qui interpellent, qui se posent des questions. Lorsqu'ils dirent Joseph et son frère sont plus chers, est-il marqué ici, mais ce n'est pas la bonne traduction, sont plus aimés, ahabbu ila abina minna, sont plus aimés. Bien que nous soyons plus nombreux, notre père se trouve dans un égarement manifeste. Tuez Joseph, ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays, afin que vous restiez seul à jouir de la bienveillance de votre père. Après quoi, vous serez des gens bien considérés. L'un d'eux prit la parole en disant, ne tuez pas Joseph, mais jetez-le dans les profondeurs invisibles du puits. Si vous procédez ainsi, un voyageur, une caravane, ceux qui sont les voyageurs de passage, le recueilleront. Ils dirent, ô notre Père, pourquoi n'as-tu pas confiance en nous au sujet de Joseph? Nous sommes sincères avec lui, vis-à-vis de lui. Envoie-le demain avec nous, il s'ébattra, se laissera donc aller, il jouera, tandis que nous veillerons sur lui. Il dit, je suis triste. Ou plutôt, cela me rend triste que vous l'emmeniez. Je crains que le loup ne le dévore. Au moment où vous serez inattentif, où vous ne ferez pas attention à lui. Ils dirent, si le loup le dévorait, alors que nous sommes nombreux, nous serions parmi les stupides, les négligents, les êtres sans esprit. Première partie donc. Une chose particulièrement importante. Allah subhanahu wa ta'ala, nous l'avons déjà vu ailleurs dans d'autres passages, il interpelle l'intelligence de qui il veut toucher le cœur. Et il dit immédiatement, au moment où il commence l'histoire, il y a un enseignement et des signes dans l'histoire de Joseph pour qui interpelle, pour qui pose des questions. La question pour nous est de savoir qui interpelle. Eh bien, les êtres humains porteurs de foi qui vont poser les questions sur l'histoire d'un prophète, alayhi salam, mais en même temps, sur toute la gestion de ce qui vit en nous, à savoir les sentiments, à savoir l'amour, à savoir la gestion de ces sentiments et de l'amour. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, attention, cette histoire n'est pas l'histoire d'un événement, elle est l'édification d'un comportement, la compréhension pour chacun d'entre nous qu'un signe n'est pas seulement un événement, mais un signe est un événement qu'il faut interpréter avec la foi et le cœur. La différence entre un arbre et le signe d'un arbre, c'est que quand tu vois un arbre, tu ne vois que l'arbre. Quand tu te souviens qu'un arbre est un signe, tu sais qu'il y a le créateur de l'arbre. Et l'histoire de Joseph, c'est un signe. Ça veut dire qu'il faut aller chercher qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans cette histoire et il faut que nous en ayons l'attention. Deuxième dimension de cette histoire, étonnant. Étonnant que tout commence par quoi finalement? Tout commence par une chose que parfois nous avons envie de rappeler à la communauté musulmane, et il ne suffirait que de ce verset pour qu'ils le comprennent, et que chacun d'entre nous médite. L'histoire de Joseph commence par des cœurs qui sont blessés. 10 frères se disent « Notre frère est plus aimé par notre père que nous, alors que nous sommes nombreux. » 10 frères manifestent la blessure de cœur, se posant la question de savoir et allant jusqu'à constater « Notre père aime mieux notre frère que nous-mêmes. » Et donc, il y a deux choses. C'est une question et une affaire d'amour. « Ahabbu ila abina minna. » Ahabbu, ça veut dire il est plus aimé. Notre père préfère son Joseph, alayhi salam, et son petit frère, qui est, selon l'histoire, le petit, le qui est nommé Benjamin. Eh bien, essayons de réfléchir un tout petit peu à ça. En d'autres termes, Yaqub, alayhi salam, Jacob, sait qu'il a un de ses fils qui est un prophète. Il est venu à lui et il lui a dit, j'ai vu le soleil et la lune et 11 étoiles se prosterner. Il sait le secret, parce que la particularité de la relation de Jacob avec son fils, c'est que ce n'est pas une filiation de sang, c'est une filiation de sang à laquelle vient s'ajouter une filiation de piété et de foi en Dieu. Le prophète a reconnu le prophète. Son fils, il sait la particularité. Et c'est ceci qui le fait préférer. Préférer son fils par la nature de sa piété, ni par sa richesse, ni par ses qualités intellectuelles. Il préfère Youssouf alayhi salam parce qu'en plus du sang, il a le cœur. Plus qu'en plus du sang, il a la foi. Puisqu'en plus du sang, il a la prophétie. Et les enfants vont devenir jaloux de ça. Il y a deux messages dans cela. Le premier, c'est que quand tu as le sang, mais quand tu as en plus la foi, qui a la foi profonde, établit des relations avec un autre être de foi, et en particulier son père, qui forcément dans l'entourage va susciter la jalousie. Il n'y a pas d'amour fondé sur la foi qui ne soit pas soumis à la jalousie de qui les observe, ces relations de foi. Ça a été une constante dans toute l'histoire de la prophétie. Deux êtres qui s'aiment dans la foi ont pour conséquence dans leur entourage parfois des jalousies pour ceux qui ne le comprennent pas, parce que s'aimer dans la foi ne peut pas être compris par ceux qui ne s'aiment que dans le sang ou qui ne s'aiment qu'à la surface des corps ou des apparences, dans la piété. Premier élément. Deuxième élément qui est très très important et qu'il ne faut jamais oublier, c'est que cet amour blessé va avoir pour conséquence toute une suite de choses négatives. En d'autres termes, l'amour, au départ, est totalement naturel, n'est-ce pas? Il est normal pour un enfant, pour 10 enfants, de vouloir être aimé par leur père, n'est-ce pas? Et de voir cet amour blessé, quand on sent qu'on est moins aimé que quelqu'un d'autre, c'est normal. Voilà la clé. C'est normal et naturel que tu sois blessé de ne pas être aimé. Toute la question est de savoir, quand tu le sens, qu'est-ce que tu fais de ce que tu sens? En d'autres termes, comment gères-tu ce qui d'abord est normal? Si tu es avec Dieu, tu le maîtrises. Si tu oublies Dieu, tu te laisses prendre au piège de ce que tu sens, et en particulier de la jalousie. Et là, nous allons voir une chose extraordinaire. Des êtres qui sont blessés vont se laisser aller. Regardez comment le cercle est vicieux. Le cercle est très vicieux et chacun d'entre nous, frères et sœurs dans cette salle, doit toujours se souvenir que si tu n'aimes pas avec Dieu, le cercle devient vicieux. Comment? D'abord, la jalousie. Et depuis la jalousie, la volonté, tuez-le. Et après vouloir le tuer, mentez à votre père. En d'autres termes, ils ont mal aimé, ils ont voulu tuer et ils sont allés jusqu'à mentir. Tout ceci, ce sont des actes qui s'entraînent les uns les autres. Alors que vous avez un homme qui a une relation avec son père fondée sur la piété et la foi, tout aussi naturelle, et qui à aucun moment de la relation avec son père ne va tomber dans l'ombre et se laisser aller au mal. Toujours, cet amour sera fondé sur la relation de transparence avec Dieu. En d'autres termes, le même sentiment peut te rapprocher de Dieu et te faire perdre parmi les hommes. Il peut te donner l'envie d'être proche de Dieu, il peut t'amener à tuer, le même sentiment, celui de l'amour. Quand il n'est pas géré, il entraîne au pire. Quand il est maîtrisé, il entraîne au meilleur. Nous sommes une communauté et notre foi nous dit, gérez vos sentiments parce que Dieu attend de vous la réforme du sentiment, même de l'amour pour le mieux. Et une autre chose dans cet enseignement qu'il faut que l'on garde, chers frères et chères sœurs, qui est importante, c'est que tout a commencé par une blessure, n'est-ce pas? Et ils vont vouloir tuer, et ils vont mentir encore, n'est-ce pas? Mais vous savez ce qui se passe à la fin de l'histoire? C'est que même des êtres qui ont voulu mentir vont être pardonnés par leurs frères et par Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Et leur père demandera pardon. Ils ont menti à leur père, ils ont voulu tuer leur frère. Vous rendez compte? Tuer leur frère. Pourquoi il est plus aimé que nous par notre père? On va le tuer. Et à la fin de l'histoire, ils sont pardonnés. Et ça nous amène à dire une chose. Ne jugez jamais d'un acte au moment où il se vit. Parce qu'il se peut que Dieu fasse exactement vivre à quelqu'un ce qu'il fait vivre aux 10 frères de Youssouf, alayhi salam. Ils sont mal partis, mais par la volonté de Dieu, ils sont bien arrivés. Méfie-toi d'être sur la route et de penser qu'ils sont perdus définitivement. Parce que parfois, ils cheminent vers le meilleur et toi, tu les juges dans le pire. Mais parfois, il faut passer par le pire parce que Dieu a voulu le pire pour eux, pour qu'ils aillent vers leur meilleur. Attention de ne pas t'arrêter sur la route d'un être pour juger qu'il est définitivement perdu quand Dieu aurait vu pour lui le meilleur. Et vous avez ici deux épreuves. Et c'est incroyable comme Allah subhanahu wa ta'ala, il prend les meilleurs des hommes et il les met à l'épreuve et les pires, ou qui auraient pu être les pires et il les met à l'épreuve. Vous voulez un exemple? Très simple. Les frères de Youssouf, comme il est dit ici, qu'est-ce qu'ils voulaient? Se débarrasser de leurs frères, n'est-ce pas? Eh bien, ils ont voulu se débarrasser de leurs frères et pendant 40 ans, dans les 40 ans qui vont suivre, chaque fois sur leur route, il apparaît. C'est lui qu'ils retrouvent en Égypte, c'est lui qui décide de leur nourriture. Il est leur épreuve, ils ont voulu s'en débarrasser, Dieu a mis comme épreuve, vous allez le retrouver. Et à son père, dont les commentateurs, Ibn Kathir en particulier, le Qurdoubi, mettent en évidence, il voulait même, tellement il aimait son fils, il ne voulait même pas le laisser une heure. Même pas une heure. Ça me fait, comme il est dit dans le Coran ici le verset, je sais ce que vous le preniez, même une heure il ne voulait pas. Vous savez ce que Dieu fait? Il le lui prend 40 ans. Selon les commentateurs, 28 ou 40 ans. Vous voyez comme il met à l'épreuve? À celui qui veut l'éloigner, tu vas le retrouver. À celui qui veut garder, tu vas le perdre. Mais, dans les deux cas, on ne doit pas s'arrêter à se dire une chose, et ça me renvoie à dire à un certain nombre de frères et de sœurs, dès qu'ils vivent une épreuve, ou qu'elles vivent une épreuve, c'est « Dieu ne m'aime pas ». S'il me fait vivre ça, il ne m'aime pas. Mais est-ce qu'il n'aime pas Yaakoub, alayhi salam, pour lui prendre son fils 40 ans? Mais parfois l'épreuve est un signe d'amour, comme parfois l'épreuve est un signe d'éloignement. Ce n'est pas l'épreuve qui dit si Dieu t'aime ou ne t'aime pas, c'est ce que t'en fais. Si dans l'épreuve tu t'assieds et tu dis « je ne suis pas aimé », tu fais « t'es mal parti, effectivement ». Mais si dans l'épreuve tu te dis « Dieu me met à l'épreuve et fait cette sabrun jamil » comme va dire le père, et puis que tu réagis, alors là, tu as changé l'épreuve pour le mieux. L'épreuve ne dit rien, c'est ta réaction en face de l'épreuve qui dit tout. Ne pas juger définitivement et réagir en permanence. Deuxième enseignement ici, particulièrement important. Et puis, vient une chose aussi, qui est la dernière pour ce passage que l'on retiendra. Parce qu'on va y revenir. Qu'est-ce qu'a dit le père? Il a dit, je crains que le loup ne le prenne, n'est-ce pas? Et les enfants, ils sont 10, ils vont entendre. Eux, dans leur projet, c'est on prend Youssouf, on le prend, puis on le fait disparaître. Et le père va leur tendre une perche. Il va leur dire, je crains que le loup ne le fasse, ne le mange. Et vous avez à voir un enseignement assez intéressant ici, sur lequel beaucoup de frères et beaucoup de sœurs connaissent les événements de l'histoire de Youssouf, alayhi salam, mais ne l'étudient pas. C'est que vous avez dans ce passage-là, une sorte de clé de la psychologie du mensonge chez les gens. Et on va y venir tout de suite dans la deuxième partie. Ce sera pour nous l'enseignement entre cette partie et la suivante. Allons-y. Donc, nous avons une somme ici d'un certain nombre d'enseignements qu'il faut garder. Le sens de l'épreuve, même pour eux, l'épreuve pour le bien, comme l'épreuve pour le mal. Et le même sentiment d'amour vous mène à la lumière avec Dieu, comme il peut vous mener aux ténèbres sans Dieu, dans le pire des actes possibles, tuer son frère. Continuons à partir du verset 15 et jusqu'au verset 22. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين Ils l'emmenèrent, puis ils tombèrent d'accord pour le jeter dans les profondeurs invisibles du puits. Nous lui avons alors révélé. Oui, tu leur diras plus tard ce qu'ils ont fait. Alors que maintenant, ils n'en ont pas conscience, ils ne le ressentent pas. Ils revinrent le soir chez leur père en pleurant et ils dirent, « Oh, notre père, nous étions partis pour jouer à la course. Nous avions laissé Joseph auprès de nos affaires. Le loup l'a dévoré. Tu ne nous croiras pas. Et cependant, nous sommes véridiques. Ils apportèrent sa tunique tachée. » D'un sang trompeur, un sang d'animal en l'occurrence, leur père dit, votre imagination, votre illusion, votre esprit, votre mauvais esprit en l'occurrence, ici, vous a suggéré cela. En vous faisant croire que votre action était bonne, belle patience, belle endurance, belle persévérance, c'est à Dieu qu'il faut demander secours contre ce que vous racontez. Des voyageurs arrivèrent, ils envoyèrent l'homme chargé de puiser de l'eau, celui-ci fit descendre son seau, il dit, quelle bonne nouvelle! Voici un jeune garçon, ils le cachèrent comme une marchandise, mais Dieu savait parfaitement ce qu'il allait faire, ce qu'ils allaient faire. Ils le vendirent à vil prix pour quelques pièces d'argent, car ils ne voulaient pas le garder. En Égypte, son acquéreur dit à sa femme, fais-lui bon accueil, peut-être nous sera-t-il utile ou l'adopterons-nous pour fils. Nous avons ainsi établi Joseph en ce pays afin de lui enseigner l'interprétation des récits. Dieu est souverain en ce commandement, mais la plupart des hommes ne savent pas. Lorsqu'il eut atteint l'âge de la maturité, nous lui donnâmes la sagesse et la science. Voici comment nous récompensons ceux qui font le bien. Ici, nous avons un passage particulièrement important aussi et un premier enseignement sur lequel nous pourrions faire ensemble un cours pratiquement d'une année de non seulement de théologie comparée, si tant est que nous parlons de théologie en parlant d'islam, mais en tout cas de religion comparée et en même temps de philosophie. Pourquoi ? Parce que Youssouf alayhi salam est pris et il est mis au cœur du puits, n'est-ce pas ? Il est jeté dans le puits. Et regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala agit toujours pour nous dans le Coran, c'est toujours pareil. Ce que vous ne trouvez pas dans les autres textes religieux, en particulier pas dans la Bible, et qui fait une différence. Et nous, nous devons la connaître, non pas pour rejeter ce que disent les autres, mais pour savoir justement quelle est la différence fondamentale d'une notion que nous utilisons tous, mais pour laquelle nous n'avons pas le même sens, et nous ne donnons pas le même sens, c'est le sens de l'épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala met Youssouf au cœur d'un puits, et il lui dit, tu leur diras un jour quelque chose de cette affaire. En d'autres termes, que lui dit-il ? Il lui dit, tu ne vas pas mourir. Tu es en train de vivre une épreuve, mais tu ne vas pas mourir. Au cœur de l'épreuve, il lui envoie un signe. Tu t'en sortiras, et un jour tu leur diras. En d'autres termes, il lui fait vivre l'épreuve, et il lui donne un élément de confiance, n'est-ce pas ? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. C'est exactement ça. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait jamais vivre à quelqu'un plus que ce qu'il peut porter. Au moment où il y fait vivre l'épreuve, il lui envoie, c'est un prophète, pour ce qu'il concerne Youssouf alayhi salam, et il a une inspiration qui lui dit, tu ne vas pas mourir. En d'autres termes, il fait vivre l'épreuve, et il donne de quoi la supporter, n'est-ce pas ? Eh bien ça, c'est profondément islamique, c'est profondément notre religion. Allah subhanahu wa ta'ala nous met à l'épreuve, mais pour celui qui a la foi au moment où il est au cœur de l'épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala envoie des signes, envoie des éléments pour dire « tu as de quoi supporter ». Le problème c'est quand tu deviens aveugle au signe, tu ne sens rien, tu vis l'épreuve tout seul comme si tu étais tout seul. Et l'un des grands exemples de cette histoire, de cette même attitude d'Allah subhanahu wa ta'ala qui systématiquement fait vivre aux prophètes comme aux hommes, une épreuve, mais jamais tout seul, c'est l'histoire d'Abraham. L'histoire d'Abraham, alayhi salam, est rapportée dans la Bible et dans le Coran, n'est-ce pas ? Cette histoire où il doit sacrifier son fils. Eh bien, il y a une chose que même les musulmans, ils lisent et ils n'analysent pas ce qu'ils lisent. En l'occurrence, la même histoire est rapportée. apporté, mais dans la Bible, Abraham doit tuer son fils, et quand son fils lui dit, mais qui sera l'agneau? Il lui dit, Dieu saura le reconnaître. Il ne le dit pas à son fils, il lui fait un mensonge par omission. Il ne dit pas à son fils, c'est toi que je dois sacrifier. Et en l'occurrence, sur toute cette attitude d'Abraham, un philosophe danois comme Søren Kierkegaard va écrire tout un livre en disant, et en parlant du sens tragique, la solitude de l'homme qui doit, devant Dieu, choisir entre l'amour pour Dieu et l'amour pour son fils. N'est-ce pas? Eh bien, la même histoire est racontée dans le Coran de façon complètement différente, parce que Abraham, dans le Coran, dit à son fils, « Je dois te sacrifier, regarde ce qu'il en est. » Et son fils lui dit, « Tu me trouveras parmi les... Fais ce que tu es, qui t'est ordonné, tu me trouveras parmi les patients, les soumis. » En d'autres termes, il apaise son père, lui dit, « Vas-y, je suis avec toi. » Il ne lui fait pas vivre, en l'occurrence, la solitude de l'épreuve. Il lui envoie même son fils qui lui dit, « Je suis avec toi. » Il l'appuie dans l'épreuve, quand dans l'autre livre, il le laisse tout seul. Et vous avez deux attitudes ici fondamentalement différentes entre la tradition de du tragique dans la solitude de la foi et en islam, tu n'es jamais tout seul. Soit tu as des signes, soit tu as des frères, soit tu as des sœurs. L'épreuve, tu ne la vis jamais tout seul si tu as un cœur qui voit. Par contre, tu peux parfois avoir l'impression que tu la vis seul si tu n'as qu'une intelligence qui réfléchit. Tu regardes les choses, tu te dis « je suis tout seul », mais tu ne regardes pas les signes qui te montrent que tu n'es pas tout seul. Et ça, ça amène des attitudes par rapport à Dieu qui sont toujours de confiance. Un musulman, une musulmane doit avoir la confiance, même au cœur de l'épreuve. Et ça m'amène à vous rappeler une chose qui avait beaucoup surpris les musulmans. Ils m'avaient demandé, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Une chose qui était particulièrement intéressante. Lors de la marche des ballons blancs, vous savez, les 300 000 personnes qui étaient à Bruxelles, qui étaient descendues lors de cette exaction qu'il y avait eu contre ses enfants, dont il y avait une jeune fille, Lubna, rahimahallah, qui était décédée. Le prêtre, au moment où il officie, se retourne vers Dieu et il lui dit « Mais comment peux-tu faire une chose pareille? Comment est-ce que tu peux nous faire vivre ceci ?» Et il s'en prend à Dieu dans un accès de révolte. Les musulmans sont venus voir et me disent « Mais comment il parle à Dieu? Comment est-ce qu'il peut parler comme ça ?» En d'autres termes, ce qui est possible dans la lecture et la compréhension, c'est que l'homme tout seul peut se révolter en exprimant par la foi le fait qu'il ne comprend pas ce qui se passe, mais que dans notre situation... Même si tu ne comprends pas, il faut chercher les signes qui apaisent et accepter ce qui t'arrive. Tu ne te révoltes jamais. Tu acceptes dans la patience, la persévérance et l'endurance le signe de l'épreuve comme le signe qui te permet de supporter l'épreuve. Vous voyez la différence? Et si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez pas que c'est à ce niveau-là qu'on devrait se parler. Pas simplement des dialogues interreligieux où on est autour de la table, où tout le monde se trouve gentil, où tout le monde est à moitié beau. Non, soyons véritablement porteurs d'une foi qui se questionne. Tout au fond. Deuxième élément, très intéressant aussi, la psychologie du mensonge. Ils ont dans la tête de prendre leur frère et de le tuer. Et ils entendent leur père qui leur tend une perche. Je crains le loup. Et vous savez ce qu'ils font? Ils reviennent et ils utilisent exactement ce que le père a dit. En d'autres termes, le meilleur des mensonges, c'est celui qui s'applique, qui s'appuie sur l'intelligence de son interlocuteur. Et ça, vous le savez très bien. Vous pouvez maintenant faire mine que c'est tout nouveau, mais vous savez très bien, vous voulez que je vous donne un exemple? Une chose que vous pratiquez, mais tous, tout le temps, depuis que vous êtes tout petit. Depuis que vous êtes tout petit, c'est peut-être pas toujours du mensonge, mais en tout cas c'est de la fine psychologie que vous avez appris naturellement. Il y a des choses que l'on dit à papa, et il y a des choses que l'on dit à maman. Parce qu'on sait très bien qu'à papa, il y a une psychologie. Maman, c'est différent. L'idiot dans l'histoire, c'est celui qui parle à papa comme il faut parler à maman. Lui, il n'a rien compris. Quand il parle mal, il n'a pas compris. Mais le fin, c'est celui, et alors on s'appuie toujours, trois mensonges, une vérité, ou plutôt trois vérités, t'enfiles un mensonge là-dedans, ça passe, tu t'appuies sur la psychologie de l'autre. C'est exactement ce qu'ils font. En d'autres termes, ils sont jaloux et ils sont rusés. Ils sont très rusés, très intelligents. Ne l'oubliez jamais, parce qu'on va trouver l'intelligence ailleurs tout à l'heure. Il ne faut pas oublier l'intelligence de 10 frères qui s'appuie sur cette psychologie-là. Nous agissons un peu tous de la même façon. L'attitude sur laquelle il faut s'arrêter, c'est l'attitude du père. Lui, il est mis à l'épreuve, n'est-ce pas? Il est mis à l'épreuve de la séparation de son fils. Vous savez, la première chose qu'il dit, il dit votre esprit, lui, il a confiance en Dieu et il sait ce que ressentent ses frères. Et il dit votre imagination, votre illusion vous a suggéré cela. Et regardez immédiatement et ne l'oubliez jamais. Jamais, parce que son fils va agir exactement la même chose. Celui qui vit l'épreuve dans l'ombre sait que le seul refuge de l'épreuve, c'est Dieu. Sabrun Jamil. Wallahu al-musta'an ala ma tasifun. Belle patience. c'est pas seulement patience. Belle endurance, belle persévérance, je vais supporter. Belle, du sens de la dignité de l'homme. Vous voyez, belle, sabrun, jamil, toutes les épreuves dans la dignité. Wallahu al-musta'an. Si j'ai Dieu avec moi et si je me retourne vers Dieu, toutes les épreuves ne me feront jamais perdre quoi ? Ma dignité. Jamais la dignité n'est perdue pour qui est avec Dieu. Par contre, on devient indigne quand on vit l'épreuve en s'éloignant de Dieu. Et la première des réactions de celui qui est avec Dieu dans l'épreuve, c'est de revenir au seul refuge. En sachant une chose, si tu t'éloignes de Dieu le jour où te vient l'épreuve, il y a fort à parier que tu ne sauras pas faire face à l'épreuve. Parce que c'est Dieu qui te donne la force. Comme il est dit ici, Wallahu al-musta'an, Dieu est celui qui nous aide. Réfléchissez bien à ça. Quand vous avez tous ici dans cette salle, à un moment donné, vous faites face, où vous vivez, où vous êtes noyé, où vous êtes emporté par une épreuve, qu'est-ce que tu fais de cette épreuve? Et c'est parce qu'il revient à Dieu qu'il sera toujours dans la lumière. Et c'est parce qu'eux vivent l'épreuve de la jalousie que finalement, ils se laissent aller au pire. Et puis, vient une chose, et c'est le dernier enseignement sur lequel j'aimerais insister beaucoup, également, parce qu'il est intéressant.